Hey, avant de commencer le courrier de Randros, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience de Shitlist en nous soutenant sur Patreon. En souscrivant en Shitlist Plus à 5 euros par mois, cela vous permet d'accéder à tous les épisodes exclusifs de Shitlist en plus des épisodes en avance sans publicité. Lien en description de l'épisode.
Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie.
Je vais te fumer.
Un courrier du Rando, c'est votre moment pour vous exprimer sur le film et sur le podcast et sur d'autres choses. Et alors, cette fois-ci, effectivement, donc on va directement aller sur la critique de moi-même, puisque François avait noté. Luc, chaque fois que tu dis société à propos d'un film qui ne le mérite pas, un adorable bébé chiot meurt et trois personnes supplémentaires votent Jordan Bardella. Alors, je suis désolé.
Chaud.
Pardon, effectivement. Et j'ai vu les dégâts que j'ai faits, puisque j'ai vu une vidéo qui a popé ce week-end. Une vidéo sur Twitter, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo qui est incroyable, où c'est quelqu'un qui a filmé une file d'attente pour aller à un meeting de Bardella.
Ah oui, oui.
Et c'était
oui.
Complètement fou. Ça a été, moi, je l'ai regardé parce que ça me fascinait, parce que c'était vraiment quelque chose de sociologie. vraiment, on avait tout. C'était incroyable. Des doudounes sans manches en veux-tu, en voilà, c'était fou.
Ah oui, oui, non, c'est vraiment devenu un signe de ralliement, la doudoune sans manches. Hein.
Je pense, ouais. Ouais. Mais c'est une théorie qu'on avait déjà débattue un petit peu avec Marvin il y a quelques années, effectivement, que la doudoune sans manches, t'étais obligé de quelque part d'être plutôt vers la droite.
Ou cosplayer de Marty McFly, mais vraiment, y a pas d'entre-deux, quoi.
Non.
Bizarre.
Non. Mais je crois que si t'as une doudoune qui est rouge sans manches, je crois que t'es plutôt de gauche. Mais ça, c'est une théorie aussi que j'essaie de débloquer un petit peu.
Il faut observer.
Mon père a une doudoune sans manches, mais qui est rouge.
Ah,
il se sent de gauche. Il a le cœur de Mitterrand.
Ah, ouais,
donc, bon, voilà.
Ouais.
Je vois.
J'essaie de trouver des parades. J'essaie de trouver des parades. Voilà. Mais effectivement, oui, je suis désolé. J'ai vu les dégâts que j'ai causés dans notre beau pays. Je suis absolument navré. Pardon François, pardon la France.
J'ai liké ce truc.
Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui ont liké. Hein. Beaucoup sont là pour bien se foutre de ma gueule aussi derrière. Quoi. Bande d'enfoirés. Cole nous dit « Les buissons en forme d'homme m'ont fait beaucoup réfléchir. » Ça me fait marrer, cette critique-là. C'est vrai qu'effectivement, c'était assez fou. Alors, Fucking signifie nous dit Garland ou l'homme qui en faisait un peu trop, même s'il délivre une sacrée odyssée philosophique existentielle aux images et à l'atmosphère saisissante, une plongée fascinante au cœur du chaos où le désir de tutoyer l'impossible mène à la destruction de tout, surtout de soi. Voilà, là, il a bien réfléchi.
Il a résumé en une phrase.
Réalisé nous dit
3 heures à faire.
Oui. Voilà, exactement. Voilà, c'est pour ça que lui, il écrit et nous, on fait des podcasts.
Grave.
Alizé nous dit « J'aime beaucoup l'esthétique, les 2 heures passent vite. Dommage que sa fin soit trop nébuleuse pour son propre bien et qu'on puisse en faire la métaphore de 1000 choses, dépression, cancer, pitié, relation au changement, etc. etc. » Voilà pour les avis des auditeurs. Alors, la question de la semaine, alors c'est une question un peu fourre-tout parce que pour trouver un lien à Annihilation de ce même type de film, on peut tomber très facilement sur 2001, Stalker et tout ça, donc j'ai dit Color Out of Space de Lovecraft. Mais après, je vais plutôt poser la question dans le sens, le meilleur film, allez, on va dire post-apo. Alors, quel est le meilleur film, entre guillemets, post-apo, body snatchers ou des trucs comme ça? Je vais commencer avec Karim.
Moi, je vais faire mon vieux con, hein, mais je vais dire The Thing de Carpenter, de 82. Parce que pour moi, Annihilation, c'est relativement complètement ça. Hein. C'est un groupe de gens qui vont à un endroit où, factuellement, à terme, il y a une menace. La menace, en fait, s'empare d'eux, mais là, c'est pareil, ça change, ainsi de suite, et ça finit sur une fin où, potentiellement, l'humanité va être détruite parce qu'une vie extraterrestre, alors qu'elle est là, effectivement hostile. Voilà. Et pour moi, on est dans le même trope, véritablement, tu vois, mais sur un traitement qui se veut quand même différent, tu vois, il se veut coloré, il se veut plus chaleureux, il se veut différemment
plus, plus enclin au contact physique.
Voilà, aussi, ouais. Mais je trouve, en fait, que dans la vibe scénaristique, si tu faisais un plan, en fait, tu prépares une dissertation, je veux dire, c'est les mêmes choses, hein, introduction, grand 1, arrivée dans l'endroit, grand 2, pérégrination, grand 3, machin, grand 4... affrontement, révélation, grand 5, menace sur l'humanité, voilà, tu vois. Donc, ouais, pour moi, en fait, et alors, pour moi, c'est clairement ça, et en plus, bah, effectivement, je trouve The Thing, le 82, extraordinaire, en vrai, tout simplement, donc, vu que pour moi, c'est son héritier 30 ans, plus 40 ans plus tard, bah, en vrai, je dirais, pour moi, le meilleur film, puisque, en plus, je considère pas Annihilation comme un film post-apo, en vrai, parce que pour moi, en fait, la peau, elle est pas encore...
C'est arrivée. Pré-apo, voilà. Je pense,
ouais. Ouais, y a pas d'apo, en fait.
Ouais, voilà, ça c'est. Ah, techniquement... non, mais, là, la fin du film, en fait, c'est, est-ce qu'il va y avoir une impôt ou pas, tu vois.
Il n'y a pas eu.
Une... Bah, il va y avoir une révolution. Je pense que, en fait, ils expliquent que la zone X, de toute manière, s'étend.
Enfin,
oui, non, ouais. Mais là, ils
comme un cancer. Comme un cancer.
Oui.
Ils enquêtent sur une zone où il y a des trous, mais pour l'instant, le reste du monde se comporte normalement, tu vois.
Oui. Oui, oui. Voilà. Mais ça, c'est un truc. Que, en fait, c'est le changement qui arrive, quoi, en gros. Quoi. C'est plus dans ce sens-là, de toute manière.
L'humanité va subir quelque chose.
Telle qu'on connaît, va changer.
Voilà.
Va
non, subir. Mais c'est bon, comme ça, c'est précisé. Comme ça, tu te feras pas engueuler sur Twitter, t'inquiète, Luc. C'est
ouais, voilà.
Et pas de problème, pas de problème. Oui, vous savez, on est habitué à se faire engueuler.
Oui, parce que c'est pas.
C'est notre deuxième boulot. Mais vous dites n'importe quoi, c'est quoi ce podcast de con?
De beauf.
Vesper de ton côté.
De beauf.
Ah, de beauf, pardon, de beauf. Excuse-moi.
Oui, bah du coup, j'avais préparé un truc en mode post-apo, mais c'est vrai que comme c'est pas post-apo, est-ce que ma réponse vaut tellement le coup?
On s'en fout, c'est cool.
Mais bah, tu peux la donner quand même.
Je peux botter en touche et dire la série The Last of Us sur HBO.
Franchement, ça marche. Hein.
Comme ça, je fais même ça un marche. Pont. Oscar Isaac, Pedro Pascal. Voilà.
Ah, le pont du kink, le pont du kink, le fameux pont du kink.
Mon pont de space latino. Mais mais oui, bah,
c'est très précis.
C'est vrai que c'est pas bête dans le sens où la série, du moins dans le design, enfin même, son jeu vidéo se retrouve dans Annihilation et Annihilation se retrouve dans The Last of Us. Mais c'est vrai qu'au niveau du design et tout, c'est le fait que quand ils se baladent sur des endroits où la nature a repris,
c'est ça, parce que quand
a repris le contrôle,
nature,
ça ressemble à
beaucoup. C'est droit et que bah vu encore une fois hein, des histoires de mutations, sauf que là bah ouais c'est des champignons donc c'est la voilà la nature reprend ses droits tout ça. Ouais, mais sinon en vrai même pour dévier les derniers comics Poison Ivy, il y a beaucoup de ça aussi. Il y a vraiment un côté très très dégueu avec bah justement en fait à la fois la maîtrise les pouvoirs de la planète, c'est lié aussi au pouvoir de Swamp Thing, enfin bon, tout un truc. Et en fait, tu sens que là, c'est des trucs un peu dégueux où justement, c'est vraiment une espèce de virus qui métastase et justement, les gens deviennent vraiment... Enfin, c'est dégueu. C'est pas juste des plantes, quoi. C'est pas vraiment des zombies.
Ouais, OK.
Il y a tout un truc qui est vraiment un peu sale. Donc, ça me faisait penser à ça aussi. Après, pour répondre à ta question initiale, si on veut rester sur le post-apo et qu'on veut pas citer des films de sable... c'est pour... voilà. Genre voilà, pour comme ça on dit pas, parce que c'est Marvin nous a dit que si on avait malheur de parler de Mad Max, il allait nous taper, donc on se comporte bien. Les fils de l'homme, où c'est voilà la fin de l'humanité arrive différemment.
Voilà. Et c'est vrai qu'elle est pas totalement consommée encore cette fin de.
C'est ça. Mais bon, là pareil, elle est en cours. Alors là, il y a pas de mutation, donc c'est vrai que c'est moins rigolo. Mais bah en vrai, ça c'est pour moi un des meilleurs films de SF ou d'anticipation. Enfin, tout court, en fait, j'allais dire de ces dernières années, mais en vrai, tout court, c'est vraiment. Et ça vieillit toujours. Enfin, ça ne vieillit pas, justement. c'est toujours aussi cool. C'est... Voilà, et après, je vais pas faire la meuf qui fait ah, les plans séquences, ils sont vraiment bien.
Non, c'est optionnel, on s'en branle. Mais,
en tout cas, le film est toujours dingue, et pareil, tu encore une fois, tu les suis bout à bout en ayant la boule au ventre pour tout le monde, quoi, en te demandant vraiment.
Ouais, ouais.
Il y a, donc bon. Donc, non, vraiment, vraiment toujours aussi cool. Voilà.
Non, en plus, c'est vrai que ce film d'Alphonse Ronquart, ce qui est bien, c'est que. C'est un film en plus. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que c'est un film qui a été connu sur le tard parce qu'effectivement, qu'au moment où il est sorti en 2006, personne n'en avait quasiment rien à branler. Carrément. Il y en avait quelques-uns qui l'avaient vu, qui trouvaient ça incroyable, mais on s'en foutait un petit peu. C'est passé sous le radar en fait. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, avec. En fait, c'est grâce un petit peu. C'est un film qui est grâce un peu à l'expansion de YouTube et de toutes les essais vidéo sur le cinéma. C'est un film qui a repris en fait du galon au fur et à mesure et les gens ont commencé à le voir et du coup à le découvrir et c'est devenu un des films je pense le plus populaire parce que les fils de l'homme quand les gens commencent à regarder des films ou commencent à se faire une cinéphilie, les fils de l'homme c'est dans les premiers films à regarder entre guillemets c'est-à-dire des bons films de cinéma qui soient faciles à regarder quoi en fait.
Ouais, je pense qu'il y a mais il y a aussi le fait que Cuaron il a vraiment explosé après en fait
avec Gravity. Bah, voilà. Ouais.
Avant il avait fait Harry Potter le troisième. Et que en fait, il a tellement explosé avec Gravity que je pense que ça a dû aider à refaire un push
sur sa filmo,
de sa filmo. En fait.
Moi, je l'ai vu après Gravity.
Ouais, bah tu vois, donc moi je me rappelle plus, j'ai dû les voir pas très loin l'un de l'autre, je sais plus dans quel sens du coup.
Ouais, ouais, mais c'est pareil de mon côté, effectivement, ouais, le succès de Gravité a aidé en fait à remettre du galon sur le film, et c'est vrai que c'est un film assez simple hein, finalement, parce que c'est moins le bordel que dans Annihilation, dans le sens où il y a moins de questions que tu te poses, mais ça reste quand même sur le truc un contexte assez simple, c'est-à-dire que l'humanité ne peut plus enfanter, et bim quoi, qu'est-ce qui se passe quoi. Et c'est vrai que point de vue là, bah en fait, c'est ouais, il t'arrive à te dépeindre un monde qui est crédible et dont des choses qu'on a vues, le fait monter la montée des extrêmes, le fait que voilà, tout est tendu, il y a des attentats dans tous les coins, il y a une espèce de qu'on appelle ça de groupe de résistance qui se forme pour essayer de trouver une solution.
Il y a tout, enfin il y a tout dedans.
Il y a voilà, il y a tout.
Il y a Michael
Caine
qui fume de la weed.
Parfait. Ouais, c'est Karim à 70 ans quoi. C'est
vraiment, grave.
C'est vraiment ça quoi. Ah ouais, c'est
franchement
ça, quoi.
En vrai il a pas la meilleure vie, il a la meilleure vie hein, de tous. C'est la merde partout. Clairement. Et lui il est yimbe chez lui.
Oui, il a tout compris en
ouais, clairement.
Il est trop
tu
bien.
Tu combattras pas tout ça, je veux dire, il y a un moment, mets-toi bien dans ta bulle, c'est tout. Je veux dire, maîtrise pas le.
Ouais, c'est tout.
Et comme ça, au moins, on refait un peu un pont avec Annihilation, avec tout ce qui est métaphore biblique, parce que forcément, là, on parle de
ah oui.
Une personne qui va être enceinte.
Ah oui.
Qui représente voilà. Toujours ouais. L'humanité, etc.
Alors, qui a eu la subtilité de pas s'appeler Marie, ce qui est pas
j'avoue.
Mal, déjà. Vraiment. Vraiment, parce que là, Alex Garland, il aurait fait hey, « il s'appelle Marie ».
Non, voilà. C'est Speck. Genre Marie, mais avec un grec. Tu vois, genre que...
Ouais, voilà, Marie. Ouais,
ouais. Ou Maria, enfin, tu vois, dans une autre langue, tu vois.
Maria, ouais, tu vois. Ouais.
Marianne.
Subtilité totale. Allez, ouais, allez. Vraiment pour aller dans le jeu français. Ouais. Non, clairement, mais c'est vrai que c'est un très bon film. Alors moi, c'est un de mes films préférés, mais c'est un film qui est assez vieux, parce que c'est un film des années 60. C'est Le Dernier Rivage de Stanley Kramer, qui, en fait, qui avait réalisé déjà plusieurs grands films des années 50-60. C'est en gros, c'est lui qui avait fait Devine qui vient dîner avec Sidney Poitier, qui a fait L'Équipée sauvage avec Marlon Brando. Et il a fait aussi un énorme film de procès qui était vraiment très bien aussi, c'était Jugement à Nuremberg. Qui est un film de procès en fait qui se déroule juste après la Seconde Guerre mondiale où c'est le jugement de quatre généraux nazis et c'est adapté effectivement d'un contexte réel mais sauf que voilà il avait renommé les généraux nazis pour en faire un film un peu plus de fiction mais c'est un excellent réel et Le Dernier Rivage alors c'est vraiment pour le coup c'est dans le sens d'Annihilation et un peu dans The Thing dans le sens où il n'y a pas d'échappatoire, entre guillemets. En fait, en gros, c'est un pur film de la guerre froide parce qu'il est sorti en 59. Et ça, en fait, ça plonge dans un monde où la guerre nucléaire a éclaté, en fait. Où la guerre nucléaire a été entamée. Et qu'en fait, les deux gros blocs se sont balancés les missiles. Et il ne reste plus qu'une partie de la planète qui n'a pas encore été touchée par les radiations, mais qui vont arriver, en fait. Parce que les radiations avancent de plus en plus et forcément tuent tout le monde, quoi. Et on se retrouve en Australie. À Melbourne, où y a un groupe de. Il y a encore cette ville qui est encore debout, où les gens essayent tant bien que mal de vivre face à ça, en fait, essayer de continuer un quotidien, en sachant qu'ils ont une estimation de savoir que dans une semaine, ils vont tous crever. Donc, en fait, on suit plusieurs personnages. On suit un général américain, de l'armée américaine, qui a un sous-marin, qui tombe amoureux d'une locale. On suit aussi un petit jeune couple qui est joué aussi par Anthony Perkins qu'on retrouve dans Psychose. Il y a Fred Astaire aussi, il y a Gregory Peck, Ava Gardner aussi. Bon, ouais. C'est vraiment un gros casting des américains.
Des bangers.
Et ouais, exactement. Et en fait, c'est vraiment les gens se posent des questions. Alors il y en a qui sont dans le déni, qui disent ah non, on va survivre, tout va bien se passer, tout ça. Spoiler non. D'autres vont dire voilà vont essayer d'essayer de découvrir s'il n'y a pas des survivants autre part en essayant de faire des messages radio. Non. Et voilà enfin il y a plusieurs choses en fait plusieurs trucs qui là et c'est vrai que c'est un film qui est assez intéressant de voir aussi tu sais que tu vas mourir dans une semaine mais t'essaies quand même de trouver de l'espoir quelque part parce qu'on suit le jeune couple qui vient de tomber amoureux ça fait 6 mois qu'ils sont amoureux et ils se disent ah on va peut-être avoir un bébé ou un truc comme ça tu sais mais ils se disent bah non en fait et du coup il y a des crises comme ça il y a des pics de conscience qui se prend en fait à chaque fois en se disant ouais en fait non enfin c'est pas possible et tout donc c'est un film extrêmement noir fataliste en disant bon en fait on est tous morts et il y a une espèce quand même quelque part à un moment donné vous verrez enfin la fin elle est quand même excellente là-dessus parce que on nous dit pas tout mais c'est vraiment Ouais, c'est vraiment un très très bon film en fait, là-dessus, sur l'apocalypse qui approche. Dans le même genre, alors je vais pas détailler, mais c'était Miracle Mile aussi. C'était Appel d'urgence en français, voilà, c'est ça. Et c'était réalisé par Steve Jamat. Et c'est effectivement avec Anthony Edwards, Mervyn Ingham. En fait, c'est en gros, c'est un film, c'est pareil, ça se passe là à Los Angeles, dans le même contexte de la guerre froide. Et en fait, il y a une rumeur qui se fait au fur et à mesure ça se passe en une nuit, où les gens commencent à entendre qu'en fait, la Russie a balancé les missiles et que ça va arriver. Mais on n'est pas totalement sûr. Et c'est ça, en fait, qui va créer en fait, un petit peu le côté paranoïa, en se disant « Ah ouais, alors du coup, est-ce qu'on va se faire éclater? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? On ne sait pas. » Et c'est pendant... Je crois que ça dure assez court comme film, c'est 1h30. Et c'est, en gros, ils se font de la paranoïa et au bout d'un moment, effectivement, au fur et à mesure que la nuit avance, ils apprennent des nouvelles informations. Et là, ça devient un autre film, quoi. Et c'est assez impressionnant aussi, justement, Appel d'urgence. Il y a un très bon film aussi là-dessus, d'une apocalypse qui va arriver, quoi. Ça, c'était aussi vraiment un film très impressionnant là-dessus. Et vraiment aussi, pour le coup, tu regardes le film, tu fais...
Non, mais il faut que je le...
Je me rappelle,
une séance spéciale à Paris il y a quelques années, justement.
Ouais, alors ça, c'est pareil, c'est un film, faut remercier quand même Capture Mag quelque part, parce que c'est eux qui ont remis le film un petit peu dans la boucle des films à voir. Parce que c'est eux qui ont fait quand même un espèce de putsch pour rendre populaire, en fait, ce film-là, quoi. Le Dernier Rivage et Appel d'urgence, c'est vraiment des très bons films là-dessus, d'une apocalypse qui va nous arriver sur le coin de la gueule. Donc voilà, ça, c'est une petite recommandation aussi.
Très bien.
Allez, on va passer aux recommandations culturelles et je vais commencer avec Vesper. Vesper, peut-être plusieurs choses. Alors, t'avais eu la chance. Alors, ça, c'est vrai que. Alors, attention, il y en a qui ont de la chance d'aller à la cinémathèque.
Oui.
Pour voir des gens. Voilà. Des gens quand même impressionnants qui ont un peu une stature.
J'ai eu de la chance parce que Océane, je ne sais pas si écoute ce podcast, mais si jamais je l'embrasse, m'a vendu ses places pour aller voir. La masterclass de James Cameron, car le dieu du S5 n'avait pas été de mon côté à la mise en vente des places. Donc, c'était un peu compliqué. Je pensais avoir vu vraiment les gens au taquet et le service de sécurité et tout au taquet quand j'avais fait la masterclass de David Fincher. Mais sachez-le, Fincher de la pisse de chat.
à côté de
Big Jim. c'était impressionnant. Il y avait tout un truc où en plus fallait venir vraiment en avance. Déjà, ça démarrait à 18h30 et fallait venir vraiment en avance parce qu'en plus il y avait le plan Vigipirate de ses morts et tout ce que tu veux. Et vraiment, les gens étaient au taquet et les gens sont arrivés super tôt. Enfin, déjà là, en venant très tôt, j'étais j'étais vraiment vers le haut de la salle. Enfin, voilà, déjà, t'es au taquet. Et donc, ils ont diffusé Terminator, donc le premier, pour les 40 ans. Oh
ça ne rajeunit pas, putain.
J'ai même pas 40 ans, mais bon, c'est dire, ça rajeunit pas. Pour les 40 ans du film, et en plus, dans une version qui était un peu rallongée, donc qui était très sympa. Je fais partie des normies qui préfèrent Terminator 2 au premier Terminator. Ce qui fait que le premier Terminator, ça fait très longtemps que je n'avais pas revu. Donc là, le revoir comme ça, déjà le voir au cinéma, de 1. Le revoir comme ça, c'était vraiment très cool pour commencer. Et la masterclass de James Cameron était vraiment cool. Pour le coup, il y a eu une session... il y avait des questions, enfin plutôt questions-réponses avec les journalistes. Et après, il y avait une réalisatrice qui est venue, apparemment à la demande de James Cameron, qui elle-même lui a posé des questions, qui est Alice Winocour, qui a réalisé entre autres Sima, avec Eva Green, qui était sortie il y a quelques années. Donc en fait, elle aussi lui a posé des questions. En gros, ça devait être en 3 temps, il y avait ça, ses questions à elle, puis un Q&A avec le public. Et en fait, ça a tellement tardé. Qu'il n'y a pas eu le Q&A avec le public, j'avais envie de dire Dieu merci.
J'ai envie de dire tant mieux. Ouais, parce que là.
Je n'en pouvais plus.
Et tu m'as dit en plus qu'il y avait genre des gens, tu sais, ça devait être des gens qui devaient être en mode taquet, genre James Cameron, c'est mon dieu.
Ouais.
Ah, ça devait être sur les questions.
Ouais, non, mais là, et le pire, je pense qu'un de mes plus grands fous rires, ça a été avant que ça commence, quand la Cinémathèque, ils annoncent un peu voilà comment va se dérouler la soirée, etc. le mec dit oui, alors par contre, pour les questions avec le public, quelques consignes préliminaires. Et genre, c'était donc au final, ça m'a même été annulé, mais quelques consignes préliminaires. Donc, déjà, faites des questions courtes et faites des questions interrogatives. Et j'avais envie de hurler. Et j'ai pensé.
Ah, genre, moi, t'es capable de prendre le micro et dire ça va
remarque.
Ouais, ouais, ouais.
Ça,
ouais.
Ça, voilà, à chaque fois qu'il y en a un qui veut faire le cake et qui a vraiment.
Alors, je pense que vous êtes inspiré de Kubrick, ça je vois.
Non, mais c'est. Enfin, souvent, en fait, c'est le cringe fest, quoi. Enfin, vraiment, il y en a. Et en plus, c'est pas venant de gens qui peuvent poser des questions un peu bateaux, c'est souvent venant de...
À des gens qui ont une certaine bourgeoisie culturelle, on va dire.
Pas être méchante, mais c'est un peu les gens mi-sens critiques, quoi. Qui posent des trucs, ou alors qui tiennent absolument à poser leurs questions en anglais, voire en japonais, quand j'ai vu avec certains Q&A.
Attends, alors, j'ai entendu, moi, des gens qui posaient leur promo de leur podcast en voulant poser une question à Flaubert.
C'est vrai, c'est vrai. Donc souvent, c'est cringe ouf, parce qu'en plus, ouais, les gens, ils veulent absolument le dire en anglais, parce qu'ils veulent flex en anglais, donc voire en japonais, et ils le disent mal. Donc après, il faut retraduire derrière, et les gens comprennent pas. Enfin bon, bref. Bon, ouais. Mais voilà, donc ça déjà, ça m'a fait rire. Bref, Winokur était très stressée quand elle posait des questions à James Cameron, donc je trouvais ça un peu touchant. Il y avait vraiment des moments où elle cherchait un peu ses mots et tout, tu voyais vraiment qu'elle était... Enfin, bah, forcément que c'est quelqu'un qu'elle aime beaucoup, mais je pense que bon, en plus... D'autant plus quand t'as... Déjà quand t'es réalisateur, mais d'autant plus quand t'as fait un film de SF, bon, ça va, je pense que tu... T'es quand même assez content d'échanger avec lui. Et en vrai, non, c'était assez intéressant. Bah, il racontait un peu tout son processus créatif, enfin, et comment il a rencontré Schwarzenegger pour Terminator, en précisant, ce qui était très drôle, il a dit « Oui, je vais raconter exactement ce qui s'est passé parce que Arnold l'a dit en interview la dernière fois, il s'est trompé, il a mal raconté. » Donc voilà, ça... Donc ça faisait beaucoup rire, c'était vraiment un mood que je trouvais incroyable, en plus en faisant des imitations de Schwarzenegger, donc... C'était plutôt pas mal. En plus, venant de quelqu'un qui, en vrai, aime beaucoup Cameron, mais que Avatar laisse un peu de marbre. Hein, donc, c'est vrai que c'est dire à quel point c'était vraiment... C'était vraiment
bonjour, Jim. Pas. Avatar 2, est-ce que c'était obligé de faire aussi long? Merci.
C'est un peu ça. Mais donc, voilà. Donc, en plus, bah, j'irai voir dès que je peux l'expo. Parce que, en fait, tout ça a été fait dans le cadre de l'expo qui est en ce moment... la Cinémathèque, mais qui a lieu jusqu'au mois de janvier, donc même si vous n'habitez pas Paris, je pense que vous aimez bien, il y a largement le temps d'y aller. Principalement basé sur les dessins de James Cameron, mais pas que. Et donc il y a tout un cycle. Et à cette occasion, et tu parlais d'eux tout à l'heure, Capture Mag a fait une interview de Cameron,
ouais,
qui est vraiment super bien. Pour le coup, elle est vraiment très très cool. J'ai regardé tout à l'heure, et les questions sont aussi intéressantes que les réponses, et ce que Cameron racontait là, je trouvais, était assez complémentaire de ce qu'il disait pendant la masterclass, mais je crois que ce genre d'événement, de toute façon, c'est filmé, et qu'il les diffuse après sur YouTube, mais bon, peut-être pas tout de suite, mais en attendant, si besoin, voilà, la vidéo là, l'interview
Cameron est là. Ouais, vraiment bien.
Et il raconte, ses dessins, son expérience sur les autres films, il parle de Piranha 2, par exemple, enfin...
Bah, c'est, se concentre beaucoup sur Piranha 2 et...
les storyboards.
Et Terminator.
Ouais. Enfin, donc, c'est vraiment assez cool, pour le coup. Donc, c'était vraiment intéressant.
C'était la première partie. Ouais. Et la deuxième partie.
Et la deuxième partie de ce long tunnel de... je raconte ma vie, mais ça va être pour le podcast. La semaine dernière, j'étais aussi à la VP de Nul et le Roi, qui est donc le premier film réalisé par Flaubert. Donc Florent Bernard, et disclosure, j'ai déjà fait quelques floodcasts, donc c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement, donc voilà.
Regardez, elle est en train de recommander un podcast, elle recommande un podcast pendant une recommandation, c'est terrible.
Oh, bah,
terrible.
Ça va, tout le monde connaît, je pense.
Oui, je sais, mais je crois...
mais oui, enfin, c'est quelqu'un dont je suis le travail en vrai depuis quasiment les débuts. D'ailleurs, on a le même âge, mine de rien, sauf que moi, j'ai pas réalisé de film avec Gainsbourg. Mais. Et donc.
Ah, la tristesse.
Quoi, c'est vrai? Et donc, ouais, la VP de Nul et le Roi, bah, en vrai, déjà, si vous êtes familier du travail de Flaubert, vous serez pas dépaysé. C'est vraiment exactement son type d'histoire et son type de ressenti, c'est-à-dire, c'est très drôle. Il y a des blagues un peu beaufs, marrantes. c'est aussi touchant. Enfin voilà, c'est des trucs où si on connaît un peu le personnage, voilà, vous serez vraiment pas dépaysé. Si vous connaissez pas, bah, c'est l'occasion de découvrir. Évidemment, Charlotte Gainsbourg et José Garcia sont top, mais je trouve que les ados, donc les deux enfants, donc en plus je dis ça en disant c'est important de citer leur rôle et je cite pas leur nom, donc je vais quand même citer leur nom, sont vraiment géniaux. Alors attendez, je vais quand même pas dire de bêtises. Ta-ta-ta, distribution. Voilà, Lily Aubry et Adrien Olmé, voilà, qui sont vraiment top. Et évidemment, si vous êtes un peu, encore une fois, familier de toute la sphère un peu YouTube des dernières années, bah en fait tous les seconds rôles sont tous vraiment cool parce que bah écrits par leur pote, quoi. Donc bon, Adrien Méniel dedans est génial. Justine Le Potier est drôle, Sophie Marie Larouille est très drôle, enfin voilà, il y a des vraiment Jérôme Niel, il fait du Jérôme Niel, mais du coup il est drôle, enfin donc non, vraiment vraiment cool, enfin c'était bien sympa. Je suis curieuse, il sort officiellement demain, donc après au moment où vous écouterez,
oui, donc podcast, il sera déjà sorti ouais, au moment du podcast sorti. Voilà,
exactement, il sort le 10 avril et voilà, j'espère vraiment que ça va bien marcher et que ça va toucher un large public parce qu'il le mérite. Voilà.
Et pour ceux par exemple qui connaissent pas Flaubert.
Oui, ou c'est
ouais, voilà, le pitch pour donner vraiment envie d'aller le voir.
C'est tout simplement une famille, donc enfin les Charlotte Gainsbourg, José Garcia et leurs enfants, et en fait Charlotte Gainsbourg demande le divorce. Et en fait José Garcia, ce qu'il lui propose, c'est de dire OK, mais laisse-moi 3 jours. Enfin, on se fait un week-end de 3 jours en famille, tous ensemble, pour se rappeler les bons moments en famille. Et si à l'issue de ces 3 jours, t'as toujours envie de divorcer, je respecterai ta décision. Et voilà.
Ah, l'idée, ouais, c'est genre
mini road trip dans le... Voilà.
Alors, un peu Little Miss Sunshine vibe un petit peu dans l'idée.
Ouais, il y a un petit côté comme ça, voilà, où tu repars, ils partagent leur...
Ces tranches de vie, quoi. Ouais,
c'est ça. Et donc, en plus, comme Flaubert vient de Bourgogne, c'est vrai qu'il y a toujours des refs et des trucs comme ça de zones commerciales un peu douteuses qui moi aussi me rappellent me rappelle la maison,
ah,
il aide beaucoup
le périurbain on connaît tous
ouais non mais c'est ça me fait rire à quel point c'est devenu un peu un argument un argument marketing.
Ah ben ça marchait bien, tu vois, ça marchait bien dans un autre film qui le jouait bien, c'était justement les vedettes.
Oui, tu parles des vedettes
aussi dans le côté qui est dans le côté périurbain aussi, quoi.
Vedettes, meilleure vanne sur le Futuroscope aussi, d'ailleurs très bonne vanne sur Futuroscope.
Ah oui,
dans Nous les Leroy, donc au final c'est un
relié pour réussir son film de comédie. Il faut placer le Futuroscope quelque part,
il faut chier sur
un gimmick
Futuroscope, voilà.
mais ouais, donc bon, non vraiment non, en vrai le Futuroscope on n'a rien, c'est sur le puits du fou sur lequel il faut chier, mais mais sinon ouais, non vraiment 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 cool, donc voilà, curieuse de voir ce que
question piège, c'est pareil, Clémentine qui la pose, elle dit pardon, c'est pas piégeux justement que ce soit en bande et que ça sorte pas du carcan traditionnel, c'est à dire en gros que en fait la peur que tu peux avoir quelque part c'est qu'en fait le film soit un espèce de floodcast géant.
Ah bah non, parce que de toute façon enfin quand t'es deux héros principaux, c'est enfin dans tes 4 héros, t'as 2 personnes qui sont totalement inconnues, qui sont les ados, et les 2 autres, c'est des acteurs français qui sont super connus aussi.
Tradis, quoi. Voilà, ouais.
Tradis, qui sont là pour justement faire venir le public, enfin, pour bien jouer et incarner les persos, mais aussi faire venir le plus large public possible, ça sert à ça aussi. Sinon, si tu veux faire un film, entre guillemets, de youtubeur, tu fais le manoir, tu vois, mais ça...
Ah ouais, non, ouais. C'est le contre-exemple.
Voilà. En vrai, ça fait longtemps que en fait, les gens, entre guillemets, d'Internet ont aussi... Enfin, que ceux qui ont percé, pas tous, mais que ceux qui avaient vraiment envie de percer,
oui,
se font une carrière en Internet. Tu vois Jérôme Niel, alors je n'ai pas vu Vermine, mais en attendant, il était...
Il joue dedans, ouais.
Vermine, et tu te dis pas que Vermine, c'est un film de YouTuber, hein, parce qu'il y a Jérôme Niel dedans, tu vois. Donc là, c'est...
Ah ouais, bien sûr. Ouais. Ah, Jérôme Niel dans le prochain Evil Dead, ce serait incroyable. Ça, ce serait vraiment le caméo de fou.
C'est tout ce que je lui souhaite, ouais, parce que du coup, effectivement, ouais, comme Sébastien Vanicek, le réalisateur de Vermine, va faire un Evil Dead, donc comme
Vermine, avec Florent Bernard, justement, scénariste. Voilà. Ouais.
Par Florent Bernard, donc ouais. Peut-être le crossover ultime, on ne sait pas.
Ah ouais. Bon, on a encore quelques années à attendre pour voir si ça va ouais, être vraiment le cas.
C'est clair. Donc voilà.
Ok, donc Nous les Leroy au cinéma pour le coup, et la Cinémathèque avec Jim Cameron, Big Jim.
Big Jim.
Karim, pardon. Est-ce que tu vas nous recommander ta nouvelle batterie, justement, on te pose dans le chat.
Ouais, grave. En vrai, c'est... Alors, vous la recommandez... Vous aimez la musique, vous aimez la batterie, achetez ça. Ouais, non, je ferai pas la promo de la batterie en soi, parce que j'ai clairement pas envie de balancer. C'est chiant, voilà. Mais par contre, il y a des ampoules. Ça, c'est très bon signe. Mais vu que je suis en délire adolescent, et donc justement, et que je dépense de l'argent stupidement, bref, jugez-moi. Je fais d'autres choses d'adolescent. Alors, je sais que vous en avez déjà parlé, mais je m'en fous, je force. Hein. On va parler de FF7 Rebirth, qui, au-delà d'être un bon jeu pour plein de qualités qui ont sûrement déjà été citées, a une force que je pensais pas avoir. Donc, Rebirth, Square Enix qui nous fait donc la suite de Remake. Il a la grande force, en fait, déjà, de te faire tolérer vachement plus FF7 Remake sur ce que tu n'aimais pas avant. Et il a le défaut aussi de rendre les FF un peu avant. Tu vois, j'avais dit qu'FF7, c'était bien. Alors, d'un coup, c'est moins bien. Tu vois, ça reste toujours bien, mais c'est quand même vachement moins bien. Donc, ça, c'est très fort. Le jeu, il est ultra complet. Il y a un milliard de trucs à faire. Et surtout, il fait un truc que je trouve assez fort. Hein, c'est qu'il va te faire reproduire. Alors, pour ceux qui ont fait FF7 plus ou moins sorti, c'est-à-dire... moi, je l'ai fait 99, donc je vais avoir...
Ouais, pas, 90.
17 piges, tu vois, un truc comme ça. J'ai la flemme de compter. Et en vrai, il te fait revivre d'un rythme différent à peu près les mêmes phases émotionnelles. Et je trouve ça assez fort. Parce qu'il y a des moments où tu kiffes, c'est les piqueries, t'apprends plein de choses, machin, tout, gna. T'as les moments de traverser de map où tu fais... Ils ont changé le moyen de te faire rester 1 million d'heures dans la world map et c'est très bien fait. Donc t'es content, tu peux prendre ton temps, ainsi de suite. Et t'as la même sensation. T'arrives à un village, il est minuit, tu te dis ok, je vais juste rentrer dans le village, je vais regarder vite fait la boutique, je peux m'acheter un nouvel équipement. Et puis tu parles à un gars, puis un deux gars, machin et tout. Boum, il est 4h du matin. Voilà, tu vois. Il arrive à...
Tiens, si j'allais faire du piano. Exactement. Si j'allais faire du piano.
Il y a même un moment où, comme dans FF7 original, t'as un peu trop de mini-jeux. Je veux dire, en mode, c'était cool, c'était bien, ils sont bien faits, mais il y a un moment, j'ai envie d'aller faire de la bagarre où j'étais pas prédisposé. Donc voilà, je trouve que c'est une réussite. Alors, le jeu, déjà, il prend du temps, parce que là, je dois être à 70 heures, et je pense que je dois être à un peu plus de la moitié du jeu, parce que je prends mon temps, je fais un peu tout.
Alors, estimation, si tu fais les quêtes annexes, t'as 115 heures, à peu près.
Ben en plus ça me va, tu vois, tu sais, moi j'ai un côté vieux con, genre en mode un FF ça fait 100 heures ou plus, ouais, tu vois, c'est un vieux truc.
Et j'ai payé 80 balles, hein, ça a intérêt de tenir
longtemps. 3 CD à l'époque, non. 4 CD mon gars.
Comme le précédent, c'est genre 35-40, tu vois, donc c'est ça aussi qui a,
ouais, ça.
Je pense qu'il a perturbé les gens quand celui-là il est remonté.
Et ben ça reprenait, alors sauf que tu n'avais pas 4 ans d'attente, t'avais juste à changer quasiment un CD à l'autre, mais ça reprenait un peu la sensation que t'avais initialement, où le début de FF, effectivement, c'est assez guidé, tu te prends pas trop la tête à farm, à quoi que ce soit, tourner en rond, t'as pas trop de sous-quêtes, très dirigé, et au bout d'un moment, bah, tu sors de Midgar, et là, t'es en mode, tu fais, ah, c'est
ouais,
ça.
Ouais, c'est open world. Ouais.
Ah, tu vois. Donc ouais, non, c'est vachement bien, je remercie mon pote Mehdi qui l'a fait tourner, parce que à la base, je voulais le skip le temps de finir d'autres trucs, Baldur's Gate, machin et tout, et puis il arrivait, il a pop, et il me prend mon temps libre, en fait. Une partie de mon temps libre. C'est vraiment bien. C'est vraiment cool. C'est clairement pas parfait. Il y a une vibe JRPG. Mais quand même, en plus, à jouer en main, je trouve qu'ils ont encore redynamisé le système de combat qui devient. Tu peux le jouer très nerveux et c'est très cool. Donc, ouais, je sais que c'est éculé maintenant comme Rocco, mais je refais parce que je la voulais cette Rocco, puisque je me suis fait censurer à la base.
On t'a empêché une Rocco.
Non, ça va, t'inquiète.
J'ai empêché une Rocco.
Je prends beaucoup de plaisir à parler de FF.
Ah oui, c'est vrai.
Et c'est tout à fait
légitime. On t'a fait retarder une Rocco, voilà.
Non, voilà, c'est ça. Dans la boîte à Rocco, il a ressorti une Rocco.
Et juste pour finir.
Non, mais c'est vrai qu'en plus.
Vas-y, Luc.
Vas-y.
Non, c'est, j'allais parler d'autre chose, donc vas-y.
Ah ouais, non, parce que c'est juste pour dire, ouais, c'est un jeu aussi qui est très beau, qui est. La musique, elle est incroyable. Enfin, les musiques, il y a 60 pistes sur le jeu de musique, et elles sont toutes. Il y a différents styles en plus, soit du rock FM, soit c'est du truc purement japonais, soit c'est du truc épique, soit c'est du truc mélancolique. Enfin, ils arrivent à mettre des tonnes de musiques de styles différents, ils s'amusent comme des tarés, et c'est vraiment très très bien. La musique, elle est complètement folle. Moi, j'ai trouvé ça absolument fou.
La musique, elle est chialée minute.
Mais ouais, mais des fois, t'as les moments où t'es là, t'es en train de faire.
Ah ouais, t'as des moments
funky. Putain,
mais en plus, même quand t'es dans le... Parce que forcément, il y a des moments où la boucle se répète quand t'es dans l'open world et tout. Et en fait, c'est le même thème, hein, mais tu t'enjailles. Genre vraiment, ça marche.
Ouais, puis il y a des variations.
Ça marche.
T'as des variations du thème.
Des variations. Ouais. Selon les combats, des fois, ils te mettent... Allez, on va mettre un peu plus d'instruments par-dessus parce que c'est la baston. On augmente le BPM et puis après, on le ralentit une fois que c'est fini.
Ils jouent sur le sound design. C'est pas mal. Je veux dire, c'est un jeu qui est plaisant à jouer avec le son parce que alors, c'est pas... Il y a un côté très Ghost of Tsushima, je trouve, dans la volonté d'exploration. Où tu es sur des points clés guidés par la nature. Alors, ça me gêne pas du tout, voilà. Mais non, ouais, je trouve.
Là, t'es guidé par le flow de la vie.
Ouais, non, c'est vraiment bien fait. Et puis, en vrai, même sur le scénar, tu vois, ils arrivent à trouver justement un rythme qui permet. Ouais, il y a des histoires qui sont quand même cool initialement, le personnage de FF, que t'arrives déjà à ressentir avec des bulles de texte. Et là, en vrai, ils ont fait des efforts. Genre, les backstories des personnages secondaires, Tifa, Barrett, machin et tout, sont vraiment. Elles étaient déjà exploitées, c'est pas un souci. Mais je trouve que, c'est ce qu'on voulait, c'est vraiment le remake, elles sont un peu, je vais utiliser le terme, sublimées, tu vois, mais ça donne vraiment envie, t'as des moments qui sont tire-larmes, t'as des moments intenses, tu vois, je veux dire, c'est... Et puis vraiment, le jeu est vraiment, vraiment, vraiment beau, le moteur est beau, machin et tout, mais même dans la direction qu'ils ont pris pour recréer certaines choses, moi je viens d'arriver à ouais. Smoke Canyon, je l'attendais, parce que c'est surtout, c'est un moment que j'aime beaucoup.
Ça, c'est un moment important du jeu original.
Meilleure musique du jeu, voilà. Donc c'est juste magnifique, je veux dire, c'est genre, je me suis arrêté là, et quand je reprendrai, je vais perdre 20 minutes à refaire le tour de Cosmo Canyon sur des boutiques que j'ai déjà vues, je m'en bats les couilles, je me dis tiens, je vais aller faire du Queen's Blood, j'aime pas ça, c'est pas grave, je vais quand même le faire, pourquoi, je me balade dans Cosmo Canyon.
Voilà, non. Ah ouais, putain, le jeu de cartes aussi, le traquenard. Ah, putain,
mais tu, oui. c'est ça qui est ouf, ça te saoule, mais ouais. Tu le fais, moi c'est ça qui me bute en fait, c'est que ça me saoule, ouais. Tu sais, mais je le fais, tu vois, tu sais, je veux dire, il y a plein de jeux, tu vois, il y a cette maladie chronique, donc on bouffe beaucoup de jeux et tu sais pas si tu peux les prendre à 100% parce que t'as envie de te garder du temps pour autre chose, tu vois, et t'as la maladie Ubisoft, des milliards de quêtes répétitives secondaires, machin et tout, y a pas que eux qui le font. Et
ah non, mais lui, il met super bien rythmé là-dessus.
Et je sais pas incroyable. Comment, mais comme FF7, tu vois, tu sais, c'était des fois bancal, mais tout et tout, mais tu le faisais, tu vois, c'est pour une raison, je sais pas, t'as même pas ouais, tant c'est... de gloire, enfin si, c'est malin, t'as toujours du gain quand même, cette saloperie, tu vois, quand même, y a toujours
en fait,
du gain.
T'as l'impression que tu vas commencer à te faire chier et il te rajoute quelque chose de supplémentaire. Hop, une petite feuille supplémentaire. Bam, ça re-rythme le jeu. Et là, tu fais ta partie encore pour 60 heures.
Sinon, Karim, tu dates qui? Tu dates qui? C'est ça, les vraies questions.
Je suis en mode Tifa, moi. J'ai toujours été en mode Tifa.
C'est bien. C'était la seule bonne réponse. Voilà.
Non, mais c'est évident, je veux dire. C'est...
Ouais, genre... moi, j'ai peur parce que je parle aux deux, et mais je parle quand même un peu plus à Tifa. Mais j'ai peur de trop donner l'heure à Eris et de finir... de déclencher le script. Je date à Eris, et là, je vais être deg de ouf. Je préfère encore date Red 13, je pense.
Ah, mais de ouf.
Ah, d'accord, on en est là.
Red 13, okay. Je veux dire, c'est...
Bah puis... ouais, attends, c'est quand même un fucking félin à cheval sur un chocobo, quoi. Il a un style.
Ah, mais mon prochain animal, je l'appelle Nanaki, tu verras pourquoi, voilà, je veux dire, c'est, voilà, c'est sûr. C'est sûr. Non, vraiment, et en plus, j'étais un peu... pas hostile, déjà j'étais un peu hostile à Remake et j'arrivais à lui reprocher des choses, donc je me suis dit, j'avais un peu de mal avec la sépulture, enfin tu vois, la profanation. Et en vrai, non, continuez les gars, tu vois, limite ça m'inquiète pour un potentiel FF17, je veux dire, les gars, vous faites pas chier, je veux dire, c'est faites des sondages, reprenez le FF.
Ah oui.
Et voilà, faites-nous ça avec, il y a le choix, du 6 au 10, tu trouveras un moyen de mettre tout le monde d'accord. Franchement, avec chacun ses préférences.
Bien sûr.
Avec le 8 en bas, hein, faut pas prendre de risques non plus, tu vois, mais. Genre, t'imagines, non mais j'aurais un kiff en fait, moi sur FF6, tu vois, j'aurais vraiment un kiff sur FF6, tu vois, t'es vraiment, parce qu'il était ouf, il y a vraiment matière, enfin bref, voilà, on pourrait repartir. Donc FF7 Rebirth, non, vachement bien, voilà, vous avez pu le comprendre, je kiffe.
Voilà, le grand kiff. Et tu voulais embrayer sur quelque chose d'autre, non? Tu voulais...
J'étais peur de... Non, en fait, si, juste pour le kiff de le dire, je me refais Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, comme vous voulez, la dernière version qui date de 2011, et je re-kiffe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a des nouveaux
chapitres. Le re-kiff.
Voilà, mais faites, c'est disponible, c'est bien.
Je voulais juste recommander un podcast de nos amis, parce que Martin Gamera et Stéphane Boulet ont leur podcast sur Godzilla. Sur Godzilla, ils ont fait... Alors, le podcast s'appelle Godzilla Final Podcast, qui revient en fait chronologiquement sur l'ordre de sortie des Godzilla. Alors, il n'y en a pas que deux, hein, y en a des tonnes. Et c'est super intéressant, parce que c'est deux passionnés qui parlent donc, du coup de l'histoire de Godzilla au cinéma, et ils parlent aussi forcément de qu'est-ce que ça raconte sur la société japonaise et tout, la contextualisation et tout, et c'est vraiment super, un super podcast, super enrichissant, vraiment très très bon, très très bon podcast, hein, donc Martin Gamera, donc on connaît pour Nanarland, mais aussi Micro Stockholm, et Stéphane Boulet, bien sûr, Super Ciné Battle, After Eight, tout ça, Parle à mon Luc, voilà, le gros cast, voilà, enfin bref. Et des fois, il passe effectivement comme... Parce qu'il nous envoie une petite pique dans la gueule, hein, bien sûr, sur le podcast, disant que... Il passait des fois sur Shitlist parce qu'il disait qu'on avait besoin d'aide, parce qu'on était un peu en souffrance quand même. On lui passe le bonjour.
Hein, c'est copyrighté.
tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, 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 copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, on n'a pas de blé, on a pas de blé. Mais tu peux m'en donner, tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, 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 copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, 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 copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté.